Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Le projet de loi est prévu pour la fin de l'année et sa discussion pour le début de l'année prochaine. Mais le débat a déjà commencé, il y a plusieurs mois déjà. L'avis du Conseil consultatif national d'éthique sur plusieurs sujets de bioéthique rendu la semaine dernière a déjà été suivi de plusieurs manifestations, notamment sur la procréation médicalement assistée, qu'il est question d'élargir à toutes les femmes, qu'elles soient seules ou en couple avec d'autres femmes. D'autres sujets sont également sur la table et divisent, et forcément, on pense un peu à ce qui s'est passé lors du débat sur le mariage pour tous. La discussion sur la loi bioéthique peut-elle fracturer la société française ? C'est la question du jour.
RFI.
Et pour en parler, deux invités nous ont rejoints dans ce studio. Caroline Janvier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes députée La République En Marche de la deuxième circonscription du Loiret, vice-présidente de la mission d'information sur la révision de la loi relative à la bioéthique. Et Sophie Joissin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sénatrice UDI, groupe Union du Centre des Bouches-du-Rhône. D'abord le constat. C'est un débat comme un autre ou c'est un débat plus sensible qu'un autre, Caroline Janvier ?
C'est un débat plus sensible et qui fait appel, à mon sens, à une grille de lecture qui n'est pas politique, puisqu'elle, d'ailleurs, l'idée, c'est vraiment de dépasser les clivages politiques et de faire appel à des questions éthiques, philosophiques, juridiques, scientifiques. Donc, effectivement, c'est un débat d'une nature très particulière.
Sophie Joissin, est-ce que vous l'abordez comme un débat classique ou
non, ce n'est pas évidemment pas un débat classique. C'est un débat éthique. C'est un débat complexe parce qu'il fait appel, je dirais, à beaucoup d'humanité. Hein, au sein de chacun d'entre nous, et ça évidemment c'est transparti évidemment.
Oui, parce qu'on se retrouve en fait chacun dans sa vie personnelle confronté aux sujets qui sont abordés, c'est ça. Hein.
Dans sa vie personnelle, dans sa réflexion, et puis on peut aussi avoir, je dirais, des mouvements contradictoires, un petit peu entre le cœur et la raison, et à des moments différents, lorsqu'effectivement on pense aux mères, hein, puisque là il s'agit des mères, mais demain il s'agirait peut-être des pères au sein de, enfin sur la GPA, et c'est encore une pente qu'il faut évoquer aussi parce qu'elle est malheureusement bien présente. Et si vous voulez, effectivement, il y a toujours une compassion, une compréhension de la détresse vécue, évoquée, mais en même temps, il y a aussi l'enfant, et l'enfant a des droits. Depuis 72, l'enfant naturel, l'enfant légitime ont les mêmes droits. Une catégorie à part d'enfants qui n'auraient pas droit à l'accès de ses origines et qui seraient programmés de cette manière-là, ça pose un vrai problème sur le plan juridique, sur le plan psychique, sur d'autres choses. Et il est vrai que, quelle que soit la compassion, pour moi, le désir d'enfant ne peut pas se substituer à l'intérêt de l'enfant et à ses droits.
Alors, Caroline Janvier, vous l'avez un peu évoqué, c'est un débat particulier parce qu'il y a plus que d'autres des fondements philosophiques, et disons-le, il y a l'influence de la religion derrière quand même sur tous ces débats.
Je crois que c'est un débat particulier, d'abord parce qu'il engage chacun d'entre nous, les hommes, les femmes, les enfants, les personnes âgées. Il en va du devenir de notre société. Les décisions que nous allons prendre lors du vote de la loi engagent notre société actuelle, mais aussi les générations à venir, puisque bien souvent sur ces questions-là, on ne mesure qu'après coup, que 5, 10, parfois même 20 ans après, les impacts que cela peut avoir. Donc oui, c'est un débat très sensible, mais pas que d'un point de vue religieux, je crois. Les religions ont leur mot à dire et ont une opinion sur ce sujet, de la même façon que les courants philosophiques, que nous avons par exemple auditionné aussi dans le cadre de la mission d'information préalable à cette révision, les obédiences maçonniques, qui là aussi avaient réfléchi et avaient apporté une contribution à cette réflexion. Donc effectivement, tout un chacun, qu'il soit représenté par un courant d'opinion, par une institution, par une association, ou qu'il ne représente que sa voix, a son mot à dire sur ces questions-là.
Sophie Joissin, vous avez parlé évidemment de la PMA, la procréation médicalement assistée, que le Conseil national consultatif d'éthique envisage d'étendre à toutes les femmes, qu'elles soient donc seules ou en couple avec d'autres femmes. Il y a aussi d'autres sujets qui sont sur la table. Donc vous craignez que ça amène à la GPA derrière. On a bien compris votre point de vue.
C'est un point de vue très logique fait, hein, parce que l'extension de la PMA est envisagée, je dirais, sous le principe de l'égalité. Sauf que il n'y a pas de raison finalement que demain les couples d'hommes n'aient pas eux aussi les mêmes droits que les couples de femmes. Comprenez? Donc l'angle en plus sous lequel ce sujet-là est abordé, bah, ne peut que faire envisager la GPA d'ici, enfin au prochain mandat présidentiel.
Et c'est un problème. Ça, c'est que les logique. Femmes et les hommes aient les mêmes droits ou
Non, ce qui est un problème, c'est que l'enfant n'est pas un objet.
Ouais.
Voilà.
Alors, on pourrait peut-être en reparler. Moi, ce que je vais peut-être recentrer un peu le débat parce qu'on repasse. On repense forcément à la tension, à la violence verbale ou même parfois physique qui accompagnait les discussions et les manifestations sur le mariage pour tous. Il faut quand même bien dire qu'on a eu un début de quasi-émeute à quelques mètres de l'Assemblée nationale à l'occasion d'une manifestation. Est-ce qu'on peut craindre la même chose avec ce débat, Sophie Joissin?
Alors, le sujet de l'émission, c'est est-ce que l'extension de la PMA risque de fracturer la société française?
Est-ce que les débats bioéthiques en général?
Alors moi je ne dirais pas ça. Enfin, je pense que c'est toujours triste de voir une hystérisation des débats et en même temps des conflits tels, parce qu'en fait il y a beaucoup de souffrances de part et d'autre. Mais au-delà de ça, je pense en revanche que ça va fracturer, si c'est adopté, la société française au niveau du statut des enfants qui seront différents. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui auront le droit d'entamer une recherche en paternité et ceux auxquels ce droit sera toujours nié et dénié. On sait quand même aujourd'hui que, et d'ailleurs il y a la loi que Ségolène Royal avait portée en 2002, avait institué donc le comité, c'était le CNAOP, qui est un comité donc sur les origines, qui recueille, je dirais, les désirs des mères, qui essaye de les inciter, lorsqu'elles accouchent sous X, à donner des informations à leurs enfants. Aujourd'hui, alors qu'il y a à peu près, en moyenne, 600 enfants qui naissent chaque année sous X, il y a déjà eu 7900 demandes d'enfants qui sont à la recherche de leurs origines. Quand on voit ça, on peut quand même s'interroger.
C'est quelque chose qui interpelle Caroline Janvier, ce besoin de connaître ses origines, la façon dont on a été conçu.
Ça se respecte.
Tout à fait, moi je trouve que c'est une attente tout à fait légitime et dont on n'avait d'ailleurs pas conscience au moment de l'autorisation de la PMA avec donneur. Donc effectivement, je trouve que c'est une attente tout à fait légitime. Pour en revenir à la question que vous posiez, qui était du risque de clivage de la société, en faisant une comparaison avec ce qui s'est passé pour la loi sur le mariage pour tous, je crois que ce risque existe, mais je crois que pour ne pas arriver à cette situation, il faudra faire preuve de beaucoup d'écoute et beaucoup de rationalité dans les débats. Parce que plus on politise les questions et plus on laisse les termes du débat aux mains d'entités ou d'acteurs qui ont une vision moins représentative et peut-être plus extrême sur certains sujets, plus les citoyens auront le sentiment de ne pas avoir été écoutés, de ne pas avoir participé. Donc je crois vraiment qu'un des enjeux majeurs, au-delà du contenu du débat, ce sont voilà les termes du débat et la façon dont d'ailleurs on a commencé à travailler, que ça soit dans le cadre des états généraux qui ont été pilotés par le CCNE, la mission d'information qui est en cours dans le cadre des travaux parlementaires. Voilà, on a tous intérêt à ce que chacun sorte grandi de ce débat et le sentiment d'avoir pu contribuer et être écouté.
Il ne faut donc
puis
pas
ça pose
que...
aussi.
Il faut pas. Faut... Alors allez-y, oui.
Puis ça pose Joissin. Aussi dans une société, je dirais, la place du père. Si on peut s'en passer aussi facilement, finalement, à quoi sert-il? Je veux dire, la question se pose.
La ces questions est de fait très compliquée. Pour rebondir
sur ce que
vous avez
vu l'évolution de la législation depuis quelques années sur la garde partagée.
Je voulais juste vous répondre
sur les congés de paternité.
Oui,
c'est bel et bien qu'à un moment donné, il y a aussi un rôle.
Laissez Caroline Janvier vous répondre.
Allez-y. Voilà. Je voulais vous répondre sur la première chose que vous aviez dite sur l'aspect la revendication que vous pensez qui va suivre sur par les pères pour la GPA sur le plan de l'égalité. D'un point de vue technique, ça n'est pas pertinent puisque, et les conseillers d'État l'ont rappelé, il y a discrimination, il y a traitement inéquitable quand on a une situation équivalente au départ. Et de fait, les hommes qui ne peuvent pas porter un enfant, qui n'ont pas d'utérus, ne sont pas dans la même situation que les femmes. Donc il n'y a pas, d'un point de vue strictement technique, juridique, de discrimination en traitant différemment les femmes en l'autorisation à l'accès à la PMA et non les hommes à l'accès à la GPA. Et d'un point de vue politique, comme vous le savez, c'est aussi un sujet très différent, puisque dans le cadre de la GPA, il y a l'intervention d'un tiers, en l'occurrence la mère porteuse. Donc c'est là où je crois qu'il faut examiner avec soin les termes et les aspects précis de mesures politiques.
Caroline Janvier, vous le disiez, est-ce que depuis votre point de vue, c'est qu'il ne faut pas laisser le débat être capté par certains groupes. C'est ce que vous avez expliqué. Il faut que tout le monde se sente écouté, intégré. Est-ce que justement, c'est pas ça le problème ? Qu'est-ce qui a changé depuis la loi sur le mariage pour tous ? Est-ce que finalement, les protagonistes de ce débat ne sont pas les mêmes ? Est-ce que ça, de ce point de vue-là, Sophie Joissin, on n'a pas vraiment progressé ?
Je pense que les protagonistes sont de toute façon les mêmes, parce que évidemment, il y a toujours des groupes qui sont plus virulents que d'autres, mais en même temps, ce sont tous les citoyens français qui sont concernés, en l'occurrence, il me semble. Mmh. Et je reviens quand même sur la différence PMA-GPA dont vous parliez à l'instant, parce que vous voyez ça du point de vue des adultes. Or, du point de vue de l'enfant, c'est la même chose. Où il a effectivement un père, une mère, une origine génétique identifiée, et on espère que c'est la règle, même si parfois il y a des accidents de la vie, il ne faut pas non plus ériger les accidents de la vie en règle, tout simplement, ça doit rester des exceptions, et on tente d'y pallier. Mais du point de vue de l'enfant, c'est la même chose.
Oui, mais je parlais de l'argument que vous utilisez.
Simplement, la marchandisation
du
corps humain, qui est effectivement la conséquence que l'on connaît bien de la GPA, et qui va faire en sorte que
il y a une
marchandise humaine dans tous les pays en voie de développement, en la personne de jeunes femmes qui seront,
dans de nombreux pays.
La prise, je dirais, de groupes mafieux, ce qui existe déjà. Mais évidemment que c'est un signe, que c'est une ouverture.
Dans de nombreux pays, Sophie Joissin, il y a des lois qui ont été faites, notamment en Grande-Bretagne, et qui encadrent ce que vous appelez la marchandisation du corps humain. Est-ce que c'est un exemple à suivre pour vous, Caroline Janvier ?
Le fait d'encadrer la GPA, vous voulez dire ?
Oui.
Je crois qu'il faut déjà se poser la question de la GPA.
Ou pas, oui.
La GPA, voilà. Et une fois, effectivement, évidemment, si on va vers là, il faut que ça soit encadré. D'ailleurs, même des pays comme l'Inde ne l'autorisent que pour des familles indiennes. Donc, je crois qu'il faudrait regarder de très près ces situations, parce que il serait, à mon avis, dangereux et inefficace de brandir et de susciter des peurs sur des choses qui parfois ne pourraient être pas fondées après un examen précis des situations.
Les études.
Moi, je dis qu'il faut partir de l'enfant.
Alors,
mais moi aussi,
il
ne
faut pas partir des adultes.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Intérêt supérieur.
En fait, on n'a pas. J'avais pas convoqué un débat sur la GPA, mais ça fait rien. On peut en parler. J'aimerais juste reparler de. Oui, on peut évidemment prendre des exemples. Les études d'opinion montrent que les personnes interrogées par les sondeurs sont favorables à des changements, notamment sur la PMA, sur la fin de vie. Et les gens qui ont participé aux états généraux étaient apparemment, quand j'ai préparé l'émission, c'est ce que j'ai constaté en lisant tout ça, ils étaient majoritairement contre. Pourquoi il y a ce hiatus ? Est-ce que c'est les opposants qu'on entend le plus, Sophie Joissin ?
Non, moi je pense, enfin, mais ces chiffres m'étonnent beaucoup, parce que c'est pas ce que j'entends autour de moi. En revanche, ce que j'entends autour de moi, et qui est plutôt une très bonne chose, c'est une baisse de la discrimination par rapport à l'homosexualité et à la considération de couples de femmes ou d'hommes du reste. Donc je pense qu'il y a aussi une confusion dans l'esprit des gens, de la population, entre le fait de ne pas faire de discrimination, de ne pas être opposé de manière méchante, bête, comme on l'entendait beaucoup il y a quelques décennies.
Quand on l'entendait beaucoup pendant le débat sur le mariage pour tous, d'ailleurs.
Oui,
on a entendu des horreurs,
faut
quand même le dire. Oui.
Déjà là, on était arrivé à un moment où il commençait à y avoir une acceptation. Mmh. En revanche, sur le statut de l'enfant, je vois peu de gens qui se sont vraiment posé la question. Par rapport à l'évolution de la législation, et puis par rapport à ses droits, tout simplement.
Caroline Janvier, est-ce que c'est normal que des opposants à des évolutions soient plus mobilisés que des gens qui finalement voient ça un petit peu de loin ?
Je pense que c'est malheureux quand c'est le cas, effectivement. Et c'est vrai, c'était vraiment l'objectif de ces états généraux, que d'intéresser tout le monde à ces questions-là, et d'ailleurs de les intéresser pas aux seules questions de la PMA ou de la fin de vie, mais à tous les défis que nous pose le progrès technique.
L'anonymat des donneurs de sperme.
Voilà, l'intelligence artificielle, la médecine génomique, les tests génétiques. Il y a beaucoup de la recherche sur l'embryon. Il y a beaucoup d'autres questions, et je crois que ça serait vraiment très intéressant que tout le monde s'y intéresse.
Sur la procréation médicalement assistée, le CCNE n'a fait en fait que confirmer un premier avis qu'il avait déjà donné pour l'étendre à toutes les femmes. Le candidat Emmanuel Macron avait annoncé la couleur, les gens l'ont élu assez largement. Est-ce que ça peut contribuer, selon vous, à la décrispation de ce débat, Sophie Joissin, ou est-ce que Bon, on va repartir comme en 40, c'est ce que
j'ai dit. Je ne sais pas, j'attends de voir, honnêtement. Mmh. Mais je pense que le débat, en tout cas, pour la majorité des gens, s'est un peu déplacé. Et j'espère qu'on va vraiment le centrer, parce que ça n'a pas été fait sur les droits de l'enfant.
Caroline,
et sur l'intérêt de l'enfant.
Caroline Janvier, comment est-ce qu'on peut organiser, comment procéder pour avoir un débat apaisé?
Je crois qu'il faut qu'il y ait une vraie écoute. Et pour ça, c'est la façon dont les termes du débat seront posés. Vous avez entendu l'annonce du Premier ministre Édouard Philippe à ce sujet. Il souhaite qu'il y ait un travail au-delà des groupes, d'associer l'ensemble des groupes sur ces questions-là. C'est ce qu'on a commencé à faire dans cette mission d'information, où d'ailleurs les échanges sont très intéressants. Je crois que nous avons, nous aussi, élus, dans la façon dont nous allons débattre, avoir non pas des objectifs politiques, mais vraiment
une responsabilité.
Voilà, une responsabilité quant à ces débats qui sont graves, et vous évoquez la question de l'intérêt supérieur de l'enfant.
C'est droit.
Je crois qu'on l'a tous en tête, et que bien entendu la question centrale est celle de l'intérêt supérieur à l'enfant. Et quand j'entends par exemple la notion de droit à l'enfant, personne n'évoque ou ne brandit la notion de droit à l'enfant. Ça n'existe pas.
Aussi.
Et voilà, là-dessus je serais en désaccord avec vous. C'est quelque chose qui n'existe pas, et auquel personne ne fait référence.
Par
des opposants.
Les couples, je dirais, mixtes, les couples homosexuels de femmes aujourd'hui, et qui commencent à poindre évidemment la revendication des couples masculins aussi.
Le CCNE parle d'une souffrance d'absence d'enfants qu'il faut prendre en compte.
Bien sûr.
Oui.
Bien sûr.
Ça vous...
Ah, mais c'est ce que je disais au départ de l'entretien, c'est qu'effectivement, il y a une véritable détresse pour des femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants et qui en ont l'envie et surtout, le plus souvent, la capacité parentale.
Sophie Joissin, je vous repose la question que j'ai posée à Caroline Janvier. Comment est-ce que vous préconisez qu'on procède pour avoir un débat apaisé?
C'est difficile avec des questions aussi intime et aussi forte.
Mmh. Parce que les protagonistes sont manifestement dans les starting blocks. Pour ne pas la citer, on a vu Ludovine de la Rochère faire une véritable tournée médiatique depuis l'annonce du CCNE. Il y a eu une manifestation des partisans de la GPA étendue de l'autre côté. Et comment est-ce qu'on... Il y avait beaucoup de CRS entre les deux. Hein, ça s'est passé à quelques mètres l'une de l'autre. Il y avait beaucoup de forces de l'ordre entre les deux. Ça semble quand même très difficile.
Tellement de convictions et tellement de souffrances. Parce qu'effectivement, c'est difficile. Je ne saurais pas, moi, vous dire demain, il faut mettre telle et telle règle en place pour que les choses, enfin, que le débat soit apaisé.
Comment,
je ne les connais pas.
Alors, comment, sur des sujets pareils, faire en sorte que personne ne se sente humilié, pour reprendre une expression du candidat Emmanuel Macron, quand il parlait du débat sur le mariage pour tous? Comment est-ce qu'on peut réussir à faire ça?
En écoutant chacun. Et c'est d'ailleurs ce que nous faisons toujours dans cette mission. Nous avons auditionné des associations familiales, catholiques, homoparentales. Et vraiment, je crois que c'est très important d'écouter chacun. Et d'entendre et de reconnaître la légitimité des arguments, même s'ils sont contradictoires, de chacune des parties en présence. Je crois que c'est fondamental.
Il est certain qu'il faut s'écouter, il faut s'entendre. Il faut s'entendre, il faut aussi reconnaître ce qui est vrai. La capacité parentale, elle est partagée, heureusement, par une majorité d'individus, qu'ils soient homosexuels ou hétérosexuels. Là n'est pas la question. Déjà, je pense qu'il y a sûrement des questions qui peuvent être blessantes, qui peuvent être humiliantes, auxquelles il faut arriver à répondre, et surtout qu'il faut évacuer.
Est-ce que l'idée de limiter la durée du débat, parce que je crois que François Hollande l'avait dit, il y avait eu trop de débats à l'Assemblée nationale, 172 heures de débats entre l'Assemblée et le Sénat, est-ce que ça avait été trop long, Caroline Janvier, est-ce que c'est une idée?
Oui, à mon avis, ça a effectivement été trop long. Je crois que c'est très important, dans le cadre d'un débat aussi majeur, d'en poser les termes au départ et d'effectivement d'arrêter un temps pour que on ne développe pas à l'infini les arguments qui souvent sont identiques.
Sophie Joissin, vous êtes d'accord?
Ça paraît l'évidence, oui.
Honnêtement.
Limiter la portée du débat, par exemple en excluant, comme semble avoir tendance à le faire le CCNE, la question de la fin de vie, c'est une... Limiter les questions qui sont posées, c'est une façon aussi?
Écoutez, moi je pense quand même que les Français vivent aussi des problématiques difficiles, hein, en termes de chômage, en termes de pouvoir d'achat au jour d'aujourd'hui, et rajouter... enfin mettre à la queue leu-leu l'ensemble des sujets de société qui peuvent nous agiter, je suis pas sûre que ce soit forcément une bonne solution.
Merci Sophie voilà. Joissin, merci à vous merci. Caroline Janvier d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour, Florence Ponce à la coordination, Simon Carteret à la documentation et à la réalisation, aujourd'hui Hélène Avril. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur RFI.fr ou sur nos applis mobiles comme RFI Pure Radio rubrique magazine. Rejoignez le débat du jour sur les réseaux sociaux. Prochain débat demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.